Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui là? Où sommes-nous? Où en sommes-nous en fait? Ah oui, 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 ça y est, c'est l'heure, bien sûr. Où avais-je la tête? C'est l'heure de l'émission. Cédric Naïmi, est-ce que vous réalisiez à l'école, au collège, au lycée, des graffitis sur vos cahiers, sur vos livres d'école ou ailleurs?
Bonjour à tous, bah, pas du tout. Je ne suis pas du tout artiste, directement artiste.
Bon, voici une question qui va nous amener à nous poser plein d'autres questions durant ces 56 minutes. Hein. Mais avant d'entrer un peu plus loin dans le détail, c'est tranquillement, car nous avons le temps. Nous allons donner donc du temps au temps pour vous permettre de découvrir progressivement où nous sommes et pourquoi nous sommes là. Allez, je vous en dis pas plus, en route vers de nouvelles aventures.
Vous êtes bien sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans l'étincelle dans la ville sur Allegre FM. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Cédric Naïmi, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Alors, merci tout d'abord d'avoir bien voulu répondre présent pour cette nouvelle étincelle dans la ville sur Allegre FM, car c'est avec vous que nous allons mener ensemble cette émission. Mais il y a aussi Francis, comme d'habitude dorénavant dans cette émission, qui vient participer. Bonjour Francis.
Bonjour à tous.
Cédric Naïmi, vous avez accepté de nous recevoir afin de nous permettre de nous raconter. Vous allez témoigner aujourd'hui à propos d'un phénomène qui touche les murs, les rues de nos villes, mais aussi de nos villages. Ça envahit les villages aussi de plus en plus. Un mouvement qui ne date pas d'aujourd'hui. Bon, alors, il y avait les grottes de Lascaux. Hein. C'était l'origine, on pourrait peut-être dire que ça a démarré là. Suivant l'urbanisation, pour ce coup, ces murs et ces villes des villages sont devenus des espaces d'expression qui sont capables, tout au long de l'année, d'être vus par des quantités impressionnantes de spectateurs, car c'est cela dont il s'agit. Voilà, des artistes qui s'expriment à la recherche de spectateurs d'un public qui l'aurait cru. Qui aurait pu imaginer que les murs des villes et des villages du monde entier, parce que ce phénomène se déploie dans le monde entier, dans plein de capitales, eh bien, ça crée un mouvement irréversible. D'un bout à l'autre de la planète, que l'on soit à Sao Paulo, et on en parlera un peu si vous le permettez, en passant par Paris, le street art et le graffiti déferlent comme une puissante vague sur laquelle tous les spectateurs des rues surfent. Nous sommes actuellement à Saint-Ouen, dans le département de la Seine-Saint-Denis, et plus précisément au célèbre marché aux puces de Saint-Ouen, pour une visite guidée d'un genre très particulier que vous allez nous organiser. Là, on est au bistrot, on a bu le café, mais après le café, on va aller se balader. C'est le principe de l'étincelle. Hein. Cédric Mémier, racontez-nous, on est où là? Rue des Rosiers.
Alors, rue des Rosiers, parce qu'en fait, les puces de Saint-Ouen, ça démarre un peu porte de Clignancourt. C'est un peu comme l'arête principale d'un poisson, c'est-à-dire que vous avez tous les marchés de droite et de gauche de cette rue. Rue des Rosiers, c'est la rue principale des puces de Saint-Ouen.
Alors, pour cette visite, on n'a pas eu besoin d'aller à l'autre bout de la planète et de prendre l'avion. Hein. On est venu, moi, je suis venu en vélo. Francis, vous êtes venu comment?
Eh ben, à vélo aussi, hein. C'était le plus simple avec ce ravissant soleil.
là, on sort du bistrot, on arrive dans la rue des Rosiers. Et là, stupéfaction, vous allez nous en parler parce que c'est une aventure incroyable, cette histoire de la rue des Rosiers et de toutes ces décos, je sais pas, à chaque fois je suis embêté pour trouver le bon terme. Le street art, c'est quand même des artistes. Juste en face de nous, on a retouche tout vêtement. Racontez-nous.
Bah, c'est surtout que les puces de Saint-Ouen sont en totale évolution actuellement.
Racontez-moi là, la retoucherie là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette retoucherie sur sa façade?
Bah, c'est quelqu'un de sympathique déjà, donc on lui a fait gratuitement, des graffeurs sont venus gratuitement lui faire sa décoration. Et c'est pour ça que c'était très important. En plus, il est en face de chez nous. Nous, on est au 88 et lui est au 55.
Alors, vous avez bien raison de préciser l'adresse. Nous sommes à la galerie... Comment s'appelle votre galerie? Bah oui, Amarage, parce que en fait, j'ai tout mélangé. C'est l'association Graffard.
Alors, l'association Graffard a démarré en 2010. Amarage a aussi démarré en 2010.
Voilà, alors pour cette visite, donc pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète. Allez, on rentre dans la galerie, mais on va retourner dehors après, parce que c'était un peu ça qui était prévu, hein, d'aller voir quelques œuvres, tout simplement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous anime complètement aujourd'hui, c'est la tradition. Sachez que tous nos invités qui interviennent sont les étincelles de cette émission. Voilà, vous êtes devenus, Cédric et Naïmi, l'étincelle de l'étincelle dans la ville. En Ile-de-France, pour ne citer que trois secteurs de cette région, des œuvres de street art s'affichent au métro national à Paris, dans le 13e, qui d'après les spécialistes d'ailleurs serait un ou le plus grand musée à ciel ouvert du monde avec Sao Paulo, mais aussi dans le quartier de la Butte aux Cailles à Paris, toujours dans le 13e, et ici à Saint-Ouen. C'est un peu les hauts lieux du street art.
Alors c'est surtout que à Saint-Ouen, les puces de Saint-Ouen, c'était surtout des espaces qui étaient pris par les graffeurs eux-mêmes pour faire du tag. Donc c'était déjà un espace libre au niveau justement d'emplacement, donc ça leur permettait de pas avoir de procès, d'embrouille avec les pouvoirs publics, et ils ont pu s'émanciper depuis plus de... ça fait plus de 25 ans maintenant qu'ils sont sur place ici. Hein.
Alors Cédric, on va en parler, parce que cette histoire de mur, c'est pas simple comme histoire. Alors Francis, une question.
Ah oui, Cédric, est-ce qu'on peut dire finalement que l'Île-de-France, c'est l'une des plus grandes capitales, si ce n'est pas la plus grande capitale du street art mondial?
Mondial, je pense pas. Je pense qu'il y a quand même aussi des espaces en Allemagne, sur Berlin, il y a quand même pas mal d'espaces qui sont autres. Ce qui est intéressant, c'est que le 93, c'est quand même, il y avait toute une société parallèle qui avait besoin aussi d'exercer, de lutter sur plein de sujets. Ça leur a permis avec le graffiti de pouvoir faire plein de choses. Il faut savoir qu'au début, quand même, c'est du tag qui avait été fait, d'où ça a été, pour le grand public, ça a été complètement décrié, parce que c'était tout et n'importe quoi, et ça l'est encore d'ailleurs pour certains.
On va tout de suite faire le distinguo. Tag, est-ce que c'est du street art, le tag? Est-ce que c'est du graffiti? Est-ce que c'est une œuvre?
Le street art, déjà, c'est un mot anglais, ça porte bien son nom. L'art, et le street, c'est la rue. Mais c'est surtout le tag, c'est vraiment du vandalisme, c'est du vandal. Après, petit à petit, les bombes de peinture ont évolué, les capes aussi ont évolué, ce qui a permis effectivement...
Alors, les capes, qu'est-ce que c'est?
C'est le petit bouchon noir qu'on a sur les bombes, qui a une projection plus ou moins importante, large, fine, extra fine. Et tout ça a vraiment... Et les palettes des couleurs aussi ont permis aux graffeurs de se dire, tiens, on peut faire peut-être quelque chose d'autre que juste un lettrage basique, etc. Donc maintenant, on est arrivé sur des choses de prouesse même. C'est carrément des prouesses. Et au-delà des prouesses, parce que le tag, justement, c'était au plus haut d'un immeuble. Il se battait pour les métros, pour les tunnels, etc. Il y a eu beaucoup d'accidents, même des morts, hein, qui ont pris des risques un peu inconsidérés, d'ailleurs. Mais petit à petit, avec tout ce qui s'est passé, maintenant, les gens ont la prouesse d'avoir des œuvres. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes qui arrivent sur le graffiti, qui ont 25, 27 ans, ce qui est assez rigolo, c'est qu'eux n'ont pas fait de tag vandal. Donc eux, ils sont plus des street artistes que du graffiti.
On va en parler des jeunes. Alors revenons à vous, si vous le voulez bien, Cédric Naïmi. Au cours de votre carrière, vous avez rencontré de nombreux artistes, César, Aslan, Kiki Picasso. En 87, alors que vous êtes directeur du célèbre établissement Le Palace à Paris, les Musulmans Fumants, un collectif emblématique de l'art urbain, réalise à l'époque en direct, en live, sur scène, des œuvres lors des soirées chaque mois. Pour renouveler le décor, vous avez travaillé étroitement avec des sculpteurs, des peintres, des designers, des éclairagistes, ainsi qu'une équipe de techniciens spécialisés en effets spéciaux. Mais le déclic, et là c'est très important, on sent là dans votre histoire que c'est là que ça se fait, c'est en 1983, en vous promenant dans une rue de Cabourg. Vous découvrez une fresque réalisée en graffiti. D'ailleurs, je vous cite, vous dites... C'est une révélation qui va donner inconsciemment un nouvel élan, me donner un nouvel élan, alors qu'à l'époque, plus vivant que jamais et souvent critiqué, ce courant artistique très underground finira par exploser dans les années 90. On voit bien que la découverte de la fresque de Cabourg, Cédric Naïmi, ça a complètement transformé votre vie. Hein, vous baignez là-dedans, ah, si. Faites plein de choses. J'ai regardé un peu vos activités. Vous êtes multistandard, vous êtes un homme orchestre, mais ça a quand même transformé votre vie. Et surtout, vous créez en 2010 Graffard. Qu'est-ce qui a motivé cette création de cette association?
Alors, la rencontre à Cabourg, effectivement, j'étais avec le sculpteur César. J'étais l'assistant de César pendant 3 ans. Et souvent en voiture, on se baladait à droite et à gauche. Quand je dis balader, c'est qu'il y avait des rendez-vous un peu partout avec ses clients, la fonderie, etc. Et quand j'ai vu ce graffiti, j'ai vraiment eu un choc. C'était la première fois que je voyais une œuvre, une vraie œuvre, qui était à l'extérieur. Les gens achetaient des tableaux pour leur chambre, pour leur salle à manger, mais certainement pas dans la rue. Donc, du coup, avec une copine, on est revenu sur place et j'ai fait les photos de cet endroit, que j'ai gardé. D'ailleurs, j'ai toujours les photos. Et après, le temps a passé, mais il faut savoir qu'avec César, quand je bossais pour lui, il y avait un grand monsieur, qui est hélas décédé maintenant, Pierre Cornette de Saint-Cyr. Pierre Cornette de Saint-Cyr, c'est quand même un maître. C'est lui qui a lancé Basquiat, Kissaring, qui a fait les plus grandes ventes. Il avait un hôtel particulier à Kléber, avenue Kléber, qui était vraiment, c'était vraiment l'empereur, le maître. On le disait maître. Et un jour, on se voyait assez régulièrement. Et en plein dîner, je lui dis, on était une vingtaine de personnes à ce dîner, je lui dis, écoute, Pierre, je pense que dans l'art, il se passe plus rien. Et il me regarde très méchamment et il me dit, tu dis des conneries, c'est pas son style. Hein. Et deux fois de suite, je lui dis, mais enfin, il se passe rien. Il me dit, tu dis des conneries. Et donc, je le reprends un peu plus tard après ce dîner et je lui dis, mais enfin, il me dit, Cédric, tu ferais bien de t'occuper du graffiti. Donc, venant de ce monsieur qui avait déjà un âge avancé, de se parler de graffiti venant de lui, j'ai halluciné. Et puis, une semaine ou deux après, je le rappelle, il faut qu'on se voit. Il me dit, bien sûr, avec plaisir. Et il me dit, tu es le mec qu'il faudrait vraiment pour le graffiti. Alors, je dis, oui, mais j'ai pas les fichiers, j'ai pas la culture, etc. Il me dit, je peux t'aider. Je te file mes fichiers, renseigne-toi auprès des graffeurs. Donc, j'ai été aidé par le 93 MC. Où NTM en faisait partie, Joey Star, et le 93 MC sont à Saint-Denis. Je les ai rencontrés totalement par hasard, si on peut appeler ça un hasard d'ailleurs, et ils m'ont tout de suite cautionné. Il faut savoir qu'il y a la guerre dans le graffiti. À ce moment-là...
On va y venir parce que j'aimerais continuer avec vous, si vous me permettez, Cédric. Des histoires, je sais que vous en avez pour 2 jours, mais là, on n'a que 56 minutes. Alors, je vous ai demandé de prendre votre temps, mais là, on va peut-être aller dans un excès inverse. Hein. Alors, si vous me permettez, Cédric Naïmi, nous allons parler d'un prix que vous avez créé en 2014. Hein, ça vous y tenait à ce prix. Il s'agit du prix du graffiti. Alors, c'est quoi exactement et ça sert à quoi?
Alors, c'est surtout déjà que je me suis aperçu que les graffeurs, bon, ils étaient tous... il faut remettre ça en 2010. Hein, et 2014, je me suis rendu compte qu'il fallait les aider, les graffeurs. Ils étaient un peu autodidactes, un peu perdus. Donc, je me suis dit, il faut les faire connaître. Donc, j'ai lancé ce prix. Et l'idée était bonne puisque l'EDF m'a tout de suite... EDF Collectivité m'a tout de suite aidé. M'a ouvert la fondation EDF qui se trouve rue Récamier à Paris. Et on a pu faire une exposition qui était partie pour un mois et demi grand maximum. On a fait 6 mois.
Enfin, comment vous choisissez les artistes?
La première session, c'est plutôt les artistes qui sont venus à nous. Je pensais pas que ça avait un tel succès et c'était quand même décrié. Parce que certains artistes l'ont pris pas très bien en disant que, de quel droit tu nous fais un prix, on n'a pas besoin de ça. Enfin bon, c'était un peu de toute façon, les Français, dès qu'on fait un truc nouveau, ça va jamais. Et en final, ça, la deuxième session a pris énormément d'importance. On a eu l'autre Paris.
Oh, ça va quand même pas mal. Hein. Ici, rue des Rosiers, il se passe beaucoup de choses et on est en France.
Oui, mais il faut savoir que le prix du graffiti, c'était toujours des grosses sociétés. Et là, on monte le nouveau prix du graffiti. Avec les voitures Renault, avec une exposition à Flins qui est prévue à Flins et un nouveau musée qui sera à Marseille. Très important.
Alors, on continue avec vous, Francis, une question?
Oui, alors, l'association Graffart que vous présidez, elle ne se limite pas qu'à ce concours, je crois. Au fil des années, vous avez créé des ateliers pédagogiques à Meudon, à Stein, à Saint-Denis, à Vitry, mais vous avez aussi organisé des événements artistiques favorisant la diffusion des arts urbains et la promotion des artistes. Des défilés de mode, des tags sur de nombreux rideaux de fer, des commerçants des puces de Saint-Ouen, bien évidemment, des fresques à Saint-Ouen aussi, sur les murs des rues de Rosiers, Paul Bert et Jules Vallès des marchés Dauphine et Paul Bert du Jardin Éphémère. Et là, au départ, avec les commerçants des puces de Saint-Ouen, ça va pas du tout se passer comme vous l'imaginiez, je crois.
C'est bien vu, effectivement. Quand je suis arrivé sur les puces de Saint-Ouen, donc je suis arrivé rue Paul Bert. Rue Paul Bert, en fait, j'ai voulu aller dans les marchés, c'est-à-dire prendre un stand dans les marchés. Tous m'ont refusé. Pour eux, c'était une clientèle qui ne leur allait pas. C'était pas de l'art, donc faut remettre en 2010. Hein. Et du coup, j'ai pris quelqu'un qui a été très sympa. Il m'a dit, écoute, moi, je te loue ma boutique. J'ai une boutique, je te la loue. Et du coup, j'ai ouvert cette boutique avec des photos. Parce qu'à l'époque, les graffeurs ne faisaient pas vraiment sur des tableaux. C'est arrivé à ce moment-là, plus ou moins à ce moment-là. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'amplification. Mais il faut savoir que les commerçants me sont tous tombés dessus parce que pour eux, c'était pas normal que j'arrive là. Et en même temps, quand j'ai commencé à faire les rideaux de fer, les premiers rideaux de fer, pour eux, c'était pas possible. Donc j'ai dit, moi, je prends en charge les rideaux de fer.
Okay. Frédéric Naïmi, quand vous dites... Cédric Naïmi, pardon. Quand vous dites, j'ai commencé à faire les rideaux de fer. Alors attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous emmenez des graffeurs avec vous, vous leur dites, tiens, allez-y, exprimez-vous sur le rideau de fer de ce marchand de légumes.
C'est presque ça. En fait, je vais voir les commerçants, je leur demande si le rideau de fer est libre. Pour éviter les fâcheries, je leur dis, je prends en charge le graffeur, les peintures, le repas du graffeur, et il fait une fresque. Au début, ça a été, bon, je l'ai fait gratuitement, donc les mecs, ils se disaient, de toute façon, vu que j'ai des tags à la place, ça sera pas plus mal. Et petit à petit, on a quand même fait 250, hein, ici.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors voilà, c'est là tout le fond du sujet, un des fonds du sujet, le graffiti et les dessins. J'ai envie d'appeler ça des dessins, j'ai envie d'appeler ça des œuvres. Les rideaux étaient remplis de graffiti à l'époque.
Ah bah oui, quand on voit les puces d'avant, comment c'était, parce que en fait j'ai la chance et heureusement parce que j'ai failli avoir des procès, parce qu'il y a, en fait les puces c'est plus ou moins classé monument historique, donc il fallait pas tout faire n'importe quoi, mais j'ai un peu fait n'importe quoi, je savais pas trop au début, mais c'est pas grave, ça, j'avais les photos de avant quand j'ai été convoqué justement par les monuments historiques de l'époque, j'ai fait voir le mur comme il était avant et comment il est devenu, donc j'ai dit attendez on va pas faire des procès, c'est de la peinture, si ça va pas on efface tout, mais simplement ça sera retagué, donc il faut faire un choix.
Ce sont des œuvres, et là, il y a aussi un vrai débat, on va l'aborder, hein. Par rapport aux autorités municipales, par rapport aux autorités qui gèrent le patrimoine, c'est pas simple l'histoire, et c'est sujet à discussion, voilà. Mais en tout cas, le street art est souvent associé à la rébellion, hein. D'ailleurs, je vous sens très rebelle, vous aussi. Hein. Alors, comment Graffard aborde-t-il cette dimension? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Et finalement, ce rebelle qui sommeille en vous, qu'est-ce qu'il raconte?
C'est pas une question de rebelle, c'est une question que l'artistique, faut l'ouvrir. En France, on a tendance à être réducteur, passéiste et ne pas évoluer. Là, on voit au château de Versailles, il y a eu des expositions improbables. Et en France, on a du mal. On est toujours en retard, on veut pas. On voit même pour plein de peintres qui sont très connus, qui ont commencé aux États-Unis parce qu'en France, c'était réellement bloqué. Les impressionnistes, ça n'a pas été reconnu comme de l'art. Et les graffeurs, c'est de l'art. En plus, c'est à leurs frais. Ils payent leur peinture sur des murs qui ne leur appartiennent pas. Il n'y a pas une partie vendeuse dessus. Ils ne peuvent pas vendre un mur. Ils vendent des toiles.
C'est vrai. Et en même temps, maintenant, il y a des commandes aussi. On en reparlera. Mm-hmm. Alors, on continue avec vous, Francis.
Alors, Cédric, pour le coup, le graffiti et le street art ont fait leur entrée en 1983 au musée Boijman aux Pays-Bas. Puis au musée Groninger, via une exposition 100% dédiée au graffiti avec les pionniers new-yorkais du style old school. Mmh. Alors qu'à New York, les autorités mènent la vie dure à ces artistes, en France, le graffiti a trouvé sa place dans les musées. Celui du Trocadéro, par exemple, n'a pas hésité à mettre à l'honneur en 1992 les graffeurs français à côté des Européens et des Américains. Cédric Naïmi, est-ce que l'on peut dire que le street art de la rue a enfin aujourd'hui obtenu ses lettres de noblesse? Est-ce qu'on peut parler de consécration de ce mode d'expression artistique?
Alors, consécration, je pense pas encore. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Faut savoir, une femme qui a été pionnière et qui a beaucoup aidé les artistes rue Dieu, à Paris, près de Saint-Eustache, c'est quand même Agnès B. Agnès B était l'une des premières à faire les expositions, à croire à John Wan, à plein d'artistes. Et ça, on lui donne une fière chandelle parce que elle s'est lancée dedans. Et c'est grâce à des gens comme Pierre Cornet de Saint-Cyr, qui a fait la première vente aux enchères de graffiti, c'était à la Cigale, et à l'époque c'était des diapositives.
Alors qu'est-ce qu'on vendait là? On vendait pas un mur?
Ben non, on vendait les premières toiles, mais les toiles, ça c'est très bizarre parce qu'en fait c'était sur des vidéos, c'était à la Cigale, projection, les gens ils levaient la main, à tel prix, c'était Pierre Cornet de Saint-Cyr. Après il y a des grosses expos qui ont été faites.
Alors que nos auditeurs comprennent bien, c'était vendu sur photo, mais c'était quoi une photo du racontez-nous.
Non, c'était une projection d'une œuvre, d'un tableau, les gens les regardaient par la vidéo ou par les diapositives et après les gens payaient à la caisse leur œuvre qu'ils avaient achetée. Il faut savoir qu'il y a un autre monsieur qui est très important, c'est Alain Dominique Galizia. Pourquoi il est important? Parce que déjà, c'est un curateur, c'est un collectionneur. À la base, il est architecte, hein. Mais il a quand même une collection formidable. Mais c'est lui qui avait fait le Grand Palais, la première exposition qui a explosé aussi, qui a beaucoup aidé. C'était en 2011, je crois, 2010 ou 2011. Et après, il a vraiment amplifié. Ça a été copié par Alain Dominique Perrin sur la Fondation Cartier. Ils ont refait aussi une expo. C'est tout ça. En fait, c'est bien, c'est que tout le monde s'active là-dessus. Il y a un souci maintenant, c'est qu'il y a trop de choses, trop d'expos, trop de vision sur le graffiti, donc ça déstabilise un petit peu, ça n'a pas laissé le temps, ça a été trop rapide.
Ça a été trop rapide, et justement, cette rapidité, elle provoque des défis majeurs. C'est quoi les défis majeurs pour ces artistes du street art aujourd'hui?
Il y a ceux qui seront vandales et qui veulent rester vandales, donc ça, ceux-là, c'est leur choix.
Quand vous dites vandales, ça veut dire quoi?
Ils prennent une bombe ou deux et puis ils font ce qu'ils ont à faire sur des murs, un peu n'importe où, sur des camions même, des fois, parfois. Ceux-là, ils resteront vandales, c'est pas le sujet.
Mais c'est la genèse du street art, c'est comme ça que ça a démarré.
Oui, mais c'est pas parce que ça a démarré comme ça qu'il n'y a pas quelque chose de parallèle qui peut être plus intéressant. Il y en a qui arrivent à gagner leur vie, il y en a qui arrivent à arrondir leur fin de mois grâce à des toiles, à des petits, de customiser des petites choses, faire des ateliers pour les enfants. Donc tout ça s'est mis en place assez rapidement. Donc il y avait vraiment une demande.
Si vous me le permettez, Cédric, nous allons faire une première pause musicale.
Le morceau que nous allons écouter a été repris par de nombreux musiciens et chanteurs. Pour n'en citer que quelques-uns, elle fut interprétée par Grateful Dead, Elliot Murphy, Nina Hagen, Brian Ferry, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Morgan Heritage et Phil Collins, sur l'album Pizza Tapes de David Grisman et Jerry Garcia, Rory Gallagher, U2, ou encore en japonais avec Angela Aki et Robert Nilan. Elle est parue en 1973 sur l'album Pat Garrett and Billy the Kid, bande originale du film du même nom, réalisé par Sam Peckinpah, dans lequel le chanteur interprète le rôle d'un personnage énigmatique, Alias. Cette chanson évoque les instants spirituellement parlants. Elle raconte, je cite, « Il fait de plus en plus sombre ». Trop sombre pour voir, j'ai l'impression de frapper à la porte du paradis. La chanson a pour titre Knocking on Heaven's Door, on écoute Bob Dylan. C'est sur Aligre FM dans l'étincelle dans la ville.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Vous savez où vous êtes? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Au bip, vous laissez votre message.
N'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Le morceau que l'on vient d'écouter a pour titre Knockin' on Heaven's Door, interprété par Bob Dylan. Vous êtes toujours sur Aligre FM, dans l'étincelle dans la ville.
Et pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous sommes au Puce de Saint-Ouen avec notre invité du jour, Cédric Naïmi, président de l'association Graffard. Vous restez bien avec nous pour cette deuxième partie de l'émission consacrée au graffiti et au street art. On a déjà un peu déblayé le terrain, mais c'est compliqué. Vous aimez Bob Dylan ?
Oh, moi, j'aime tout, moi. J'ai travaillé avec Stromae, j'ai travaillé avec M. Pokora, j'ai travaillé avec Malcolm McLaren, donc, j'ai quelqu'un où j'aime la musique, quelqu'un sur la musique. J'étais le premier à faire la première rave sur l'Arche de la Défense, quand même.
Alors, c'est le côté multitâche, hein, de chez vous. Hein.
J'ai mis le multitout.
multitâche, voilà. Alors, en première partie de cette étincelle dans la ville, nous nous sommes posés une série de questions. On va continuer car le street art et le graffiti font partie de notre quotidien quand même. Précédemment, nous l'avons évoqué, parmi les nombreuses activités de Graffard, vous travaillez aussi sur des défilés de mode. Racontez-nous.
Ah ben, on a fait sur des défilés de mode, ce qui m'a le plus plu, c'est qu'on avait fait des sous-vêtements féminins qui étaient customisés avec une jeune femme qui s'appelle Lédica, qui est une très très bonne artiste d'ailleurs, qui est une pionnière graffiti femme. Il y avait pas beaucoup, à l'époque, il y avait vraiment pas beaucoup de femmes, il y en a de plus en plus. Et du coup, c'était un défilé où toutes les femmes avaient des sous-vêtements, mais tous customisés. Et ça fait un succès fou. On peut savoir pourquoi d'ailleurs.
Si vous le voulez bien, j'aimerais revenir aussi au street art dans la ville. C'est quand même le sujet de cette émission. Quels sont les impacts sur les villes et leur patrimoine? Vous l'avez évoqué un petit peu, quand on sait que certaines villes se sont équipées de brigades de nettoyage pour faire sauter certaines œuvres installées par-ci par-là, en les faisant tout simplement disparaître. Quel est votre avis sur ce sujet?
Alors, j'ai plus qu'un avis. J'ai fait un livre qui s'appelle « État des lieux », préfacé d'ailleurs par Agnès B., où j'ai justement questionné les personnes de la mairie de Paris, pourquoi ils en faisaient certains graffitis. Alors, parfois, c'était à la demande du voisinage, hein, des riverains qui, effectivement, faisaient cette demande. Ils étaient obligés de l'appuyer, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais des fois, les gens qui faisaient le nettoyage refusaient d'enlever une fresque qui leur plaisait beaucoup. Et là, j'ai interviewé justement à ce moment-là un de ces mecs et qui m'a dit « Mais non, je peux pas l'enlever, c'est trop beau, je peux pas enlever ça. » Donc, comme quoi, il y a une vraie évolution permanente encore sur le graffiti. Et là où c'est quand même intéressant, c'est que ça met des couleurs. On a besoin de couleurs. Quand on a des murs, comme je dis, quand les gens n'ont pas d'argent pour payer un ravalement, faites un superbe graphe. Non, mais sérieux, c'est que ça coûte beaucoup moins cher en attendant d'avoir les fonds pour faire un ravalement.
On l'aura compris, il y a les œuvres installées avec autorisation ou en tout cas qui, a posteriori, obtiennent l'autorisation, puis il y a les autres. Et parfois, on se désole que certaines œuvres disparaissent car elles ne sont pas forcément positionnées à des endroits qui conviennent à certains. C'est ça le sujet.
C'est ça le sujet, mais on peut pas. Voilà, ça, c'est tout à chacun. Faut essayer de négocier au maximum. C'est pas si simple. Je voulais revenir quand même au pouvoir public des mairies. À l'époque, à Saint-Ouen, c'était une jeune dame qui s'appelait Jacqueline Rouillon, qui était la maire de Saint-Ouen. Je savais que j'avais une pétition qui était faite contre moi pour m'installer au Puce. Hein. Donc elle m'avait prévenu. Je la connaissais absolument pas, cette femme d'ailleurs. C'est la première rencontre. Et à un moment donné, j'ai eu d'autres discussions avec elle. J'ai dit mais pourquoi vous payez des gens dans la mairie pour payer des graffeurs, donc ça c'est une superbe idée, mais sur des murs que vous savez pertinemment qu'au bout de 2 mois vous allez détruire ces murs. J'ai dit, c'est manque de respect pour les artistes. Et elle m'a dit, effectivement, j'avais pas eu cette vision. Et ça, comme quoi l'évolution se fait, puisque maintenant les mairies payent des ateliers pour les des graffeurs pour les enfants, pour embellir. Maintenant, l'époque a bien changé. Comme quoi on est en pleine évolution. Hein.
Et elle finance aussi, c'est le cas dans le 13e arrondissement, sur des façades qui appartiennent à des bâtiments gérés par la ville. Elle finance aussi des œuvres majeures pour ceux qui ont la chance d'aller dans le 13e. Oui.
Il y a une très bonne équation, c'est Itinérance, la galerie Itinérance, c'est Mehdi Benchek, qui effectivement a une complicité absolue avec Jérôme Coumet, le maire du 13e. Et ça, franchement, j'aimerais bien que ce soit partout pareil.
Vous me tendez la perche, alors comment concilier la légalité et la créativité dans le street art? C'est finalement les pouvoirs publics doivent s'emparer du sujet.
À partir du moment où on est sur des murs de rue, je veux dire, on n'a pas trop le choix. Je veux dire, c'est les copropriétés qui doivent donner l'avis, c'est la mairie qui doit donner aussi son avis, bien que parfois on passe un peu outre.
Francis.
Dans ce genre de circonstances, comment concilier la légalité et la créativité dans ce domaine du street art?
La créativité, ce qui est assez rigolo, c'est que moi je trouve que les graffeurs, ce qui est assez impressionnant, c'est quand ils prennent des grands murs avec une nacelle, quand t'es devant un mur, c'est comme une page blanche, sauf qu'une page blanche devant soi, quand t'es assis sur un bureau avec un stylo, c'est pas tout à fait la même chose que de prendre une nacelle. Ils ont une vision qui me surprend même encore maintenant. C'est-à-dire qu'il faut un tracé qui est évident, enfin pour eux qui est évident, pour eux, pas pour moi d'ailleurs, et quand ils commencent à remplir par les couleurs, et après mettre les ombres, les reliefs, là ça prend tout son sens. Et ça c'est quand même une magie absolue. C'est assez étonnant.
Alors nous le savons tous, en matière de culture, et notamment dans le domaine de l'art, et a fortiori dans le domaine du street art, se pose la question du soutien aux artistes. Est-ce que finalement, les artistes de street art sont soutenus? Et si c'est le cas, comment le sont-ils aujourd'hui?
Ils le sont par les services culture de certaines villes, hein. Ils sont quand même soutenus, oui, on va dire ça. Après, il y a des choix artistiques qui, évidemment, j'allais dire qu'ils sont pas les miens, non. Parce que moi, je laisse une ouverture à tous les artistes. Et c'est souvent un peu coincé parce que la fille ou le mec de la culture n'ont pas le temps, ou pas le temps de pouvoir, ils prennent le premier dossier, ou il y a des copinages, hein, comme partout d'ailleurs. Et moi, je trouve que c'est dommage, ça réduit l'ouverture artistique. Ça, c'est ce qui me dérange.
Aligre FM 93.1.
Francis?
Oui, alors, quels sont, par exemple, les thèmes abordés dans le street art? Est-ce que certains prédominent? Est-ce qu'il y a une récurrence dans les thèmes abordés?
Alors, si on est en phénomène politique un peu compliqué, effectivement, certains graffeurs, que je connais d'ailleurs pour certains, bah, ils vont un petit peu sur des sujets. Moi, je ne vais pas là-dedans. Moi, je reste vraiment dans l'artistique. Je ne veux surtout pas ça. Mais on a passé des messages « Fais-toi une vie » sur « Fais-toi une vie », c'est une phrase clé. Enfin, il y a plein de... Quand il y a eu l'histoire de Naël, le petit jeune de Naël, j'ai dit « Ne pas perdre sa vie ». Et tout ça, quand je fais des visites avec les enfants, ils comprennent. Je leur dis « Mais c'est quoi, pas perdre sa vie ?» Et tout ça fait des débats. Et ça, c'est ça aussi qui est intéressant, que l'artistique puisse permettre une réflexion autre.
Justement, Cédric Naïmi, on peut se poser la question de savoir si le street art influence la société ou si la société est influencée par le street art. Est-ce que ça joue?
Alors, oui, enfin, ce qui est influencé par la société, bah, c'est surtout qu'on voit des fresques qu'on ne voyait pas avant. À mes yeux, on n'en voit encore pas assez. Mais bien sûr que ça influence. Au début, les gens avaient des a priori. Maintenant, je vois bien qu'il n'y a plus d'a priori. Il y a le oui ou le non pour des murs. Il y a des gens qui disent « Ah non, pas sur mon mur, c'est hors de question. » Ils ne veulent pas en entendre parler. Puis il y a ceux qui disent « Bah si, ça tombe bien, je cherchais des gens pour le faire. » Donc voilà, la société a bien évolué, au moins pour ça.
Cédric Naïmi, nous allons faire une nouvelle petite pause musicale, une deuxième avec un morceau, vous allez voir, ça va vous plaire, j'en suis certain.
Oui, d'ailleurs, je crois que vous nous en avez parlé tout à l'heure. On raconte que la chanson qui va suivre est née d'une rencontre entre son compositeur-interprète et une personne sans abri. Alors que le chanteur se promenait avec une certaine Tatiana à Bruxelles, il fut interpellé par cette personne sans abri pour lui dire « Te crois-tu beau ?» Nous sommes le 21 mai 2013, l'artiste décide de tourner le clip vidéo de sa chanson en pleine rue, à Bruxelles toujours, en caméra cachée. Plusieurs vidéos amateurs de ce tournage apparaissent ensuite sur Internet, montrant le chanteur apparemment ivre. Cette vidéo crée un buzz incroyable, alors que quelques jours plus tard, il l'interprète lors de l'émission de télévision Ce soir ou jamais sur France 2. Quelques jours plus tard, il sort le clip de la chanson dans laquelle il interprète un homme ivre qui a rompu avec sa copine. 3 jours plus tard encore, après la publication du clip, celui-ci est visionné 3 millions de fois. Lors des Victoires de la musique 2014, la chanson reçoit alors la victoire du meilleur clip vidéo. Plus tard, il confiera « J'ai eu l'idée de ce clip au moment de l'enregistrement. C'était risqué, j'ai posé beaucoup de questions autour de moi, certaines personnes étaient vraiment contre, mais finalement, les personnes trouvaient cela plus noble que nul. » On écoute alors « Formidable », interprété par Stromae, c'est sur Aligre FM, dans l'étincelle dans la ville.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas. Hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier. J'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, formidable. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, oh, pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Voilà, le morceau que l'on vient d'écouter a pour titre « Formidable » avec son interprète Stromae. Vous êtes toujours sur Aligre FM dans l'étincelle dans la ville.
Et vous restez bien avec nous pour cette dernière partie de cette émission consacrée au graffiti et au street art. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous sommes au marché Opus à Saint-Ouen, dans le département de la Seine-Saint-Denis, à l'association Graffard, à la galerie... La galerie...
Amarrage.
Voilà, merci. Et en compagnie de notre invité, Cédric Naïmi, président de l'association Graffard. Alors, on va aller se promener derrière votre galerie, parce qu'il s'en passe des choses ici, si vous me le permettez.
Je voulais juste rajouter par rapport à Stromae. Stromae, j'ai fait un livre avec lui. Et ce qui était assez intéressant, c'est que j'ai trouvé un graffeur qui a fait la couverture de ce livre. Et même lui a été impressionné. Parce qu'un mec comme Stromae, on ne peut pas faire autrement que de le surprendre, puisque lui-même nous a surpris. C'est quelqu'un de très ouvert artistiquement. J'étais ravi d'avoir bossé avec lui, d'ailleurs.
Alors, je voudrais évoquer avec vous, Cédric Naïmi, cette galerie. Vous êtes installé donc dans ce marché Opus. Vous accueillez régulièrement des photographes, des sculpteurs, des peintres, des graffeurs, bien sûr. Alors, racontez-nous.
Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que quand on a eu j'ai une toute petite galerie au début, mais celle-ci est plus intéressante parce qu'on a une très grande cour qui fait à peu près 300 mètres carrés. Et donc, ça permet vraiment sur les murs de pouvoir tester aussi les artistes avant de leur attribuer des endroits. Par exemple, quand il y a eu les Jeux Olympiques, Tony Estanguet voulait travailler avec nous pour faire le siège des Jeux Olympiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Mais les graffeurs, j'avais testé sur les murs ici pour faire un choix, pour qu'ils puissent faire un choix. Lui et son équipe, d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant d'avoir cette possibilité. Alors maintenant, cette galerie, personne n'en voulait avant. Maintenant, je suis tellement convoité que j'ai un peu la trouille. Ça appartient à Saint-Ouen, à la mairie de Saint-Ouen. Et toujours, ça plane cette idée de quelqu'un d'autre pourrait la reprendre. Donc, on a fait tout le boulot, quoi.
Alors justement, on se balade dans cette galerie, on va aller dans cette fameuse espace qui est contigu à la galerie. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe ici?
Alors, il se passe plein de choses. C'est-à-dire que, surtout quand il fait beau.
Il y a des murs, tout autour.
Il y a des murs. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le mur, où ce ne sont que des artistes féminines qui viennent ici pour poser les fresques. Il y a un chalet, le petit chalet. Donc, ça permet de boire des boissons fraîches, des glaces, des gaufres, peu importe. Et puis, les gens peuvent s'installer, acheter de la nourriture ailleurs, s'installer ici. C'est ouvert. Ça s'appelle une association. Je revenais quand même par rapport à ça. Il faut savoir qu'une association n'est pas faite pour gagner de l'argent. Mon intérêt, c'était que je suis passionné pour faire avancer l'art, quel qu'il soit. toi. Donc les œuvres, c'est les artistes qui les gagnent. Le prix du graffiti, elles sont vendues aux enchères, mais nous on prend une infime partie. C'est-à-dire que ça rembourse à peu près nos frais, pas toujours d'ailleurs, mais c'est vraiment fait pour amplifier, donner un mouvement et donner aussi des moyens aux artistes.
Cédric Naïmi, passionné vous l'êtes, c'est pour ça que nous sommes allés à votre rencontre, car vous aussi vous allez à la rencontre de ces artistes, on l'a bien compris. D'ailleurs, vous avez expliqué un petit peu quelles étaient les tendances, mais là, on a sous les yeux, allez, venez avec moi, on va aller commenter cette fresque, cette première, allez, moi j'appelle ça une fresque, ça vous va le mot fresque ?
C'est parfait, c'est une fresque.
Voilà, racontez-nous, là, c'est devant nous, devant nos yeux.
Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est une jeune femme qui est à 23 ans, qui est métisse, qui fait des portraits, mais hyper rapidement, hyper réaliste. Et elle a ce qui est le plus dur dans un portrait, c'est les regards, c'est bien équilibrer les yeux, c'est ce qui est le plus compliqué. Et elle l'a fait, mais d'un coup, d'un trait, et c'est parfait. On a la preuve ici. Hein.
Ça représente donc le visage d'une femme.
Une femme, oui. Parce que chacun, même les garçons, les mecs, quand ils font, ils font entre guillemets un peu le fantasme de la fille comme ils la verraient, ou leur femme comme elle n'est pas, peut-être.
On va citer le nom de l'artiste, Cédric.
Non. Parce que je ne l'ai plus.
Bon, quand on l'a retrouvé, vous allez nous le retrouver. Hein. Bon, tous les deux, on fait la paire. On continue. 2, 3, 4, au montage, on coupe et on va retrouver le nom de l'artiste. Allez. Là, on est toujours dans votre cour, dans votre jardin, dans votre espace qui est contigu à la galerie. Allez, racontez-nous, qu'est-ce qu'il y a sur ces murs ?
Alors, ici, c'était un collectif. Alors, on voit les blases. Hein. Ah oui, les blases, très important, c'est le nom du graffeur. Quand il rajoute derrière avec une barre de fraction, ça s'appelle le crew. Le crew, c'est le groupement de plusieurs artistes. Donc ici, c'était des murs. C'est des murs libres. Hein. La plupart, même certains, je ne les connais même pas. Ils arrivent, tiens, est-ce que je peux poser ? Je regarde sur son portable 2-3 photos de lui et puis je dis, vas-y, roule.
Francis, une question ?
Vous expliquez que le graffiti est un art accessible à tous et de tous les âges, qu'il s'agisse d'artistes autodidactes ou issus d'écoles d'art. Aider de pochoirs, de bombes à aérosol, de collages, de peintures. Sa pratique permet à chacun de développer finalement sa technique, d'exprimer ses valeurs et ses idées, et de trouver son propre style. Qu'il se fasse par le graphe, le tag, la fresque, le graphisme, la BD, les nouvelles perspectives 3D et les techniques mixtes, avec la sculpture notamment, son langage est très vaste. Beaucoup peuvent y trouver leur voix et leur mode d'expression. Est-ce que vous y voyez pour l'avenir un développement possible pour une plus grande partie des jeunes et des moins jeunes, notamment avec des ateliers dans l'enseignement sur le graphe et le street art?
Alors déjà, maintenant, il y a des écoles hein, maintenant qui existent. Hein. C'est récent, enfin, il y a 5-6 ans maintenant. Après, il faut que les jeunes trouvent toujours des supports. Moi, je me bats toujours pour... Je me suis battu avec la RATP à un moment donné parce que j'ai dit, l'argent que vous dépensez à mettre des maîtres chiens, à nettoyer avec des produits hyper toxiques, c'est vrai que les bombes, c'est toxique. Mais rajouter des produits pour les enlever hyper toxiques, à un moment donné, peut-être qu'il valait mieux prendre les jeunes, trouver des espaces gardés, légitimes, on va dire, et pour, au lieu, ça coûtera moins cher que de payer tout ça, parce que ça cause des accidents, ça fait vraiment, il y a eu des... Et là, je pense que le message était passé.
Vous avez déclaré, certains graffeurs poétisent la ville par un message provocateur sur leur environnement avec humour et puissance, tandis que d'autres illustrent avec passion et esthétisme leur vision de la société. Vous pouvez nous en dire plus ?
Je crois que tout est dit déjà dans la question, c'est-à-dire que je vois pas ce que je peux ajouter à ça, en fait. Franchement, chaque artiste est habité par une fonction de technique, de sa technique de peinture, ses couleurs, parce qu'il y en a qui ont vraiment des couleurs purement à eux. Ils veulent pas changer de thème de couleur. Après, il y en a qui font plus des visages, plus des panoramas, plus, il y en a, c'est de l'abstrait. Là, on a encore un exemple ici. Enfin, franchement, c'est ça qui est intéressant. C'est que chaque artiste maîtrise lui-même ce qu'il veut maîtriser. Et quand je choisis les artistes, j'impose jamais, je dis bien, de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. D'ailleurs, je ne l'impose même pas. C'est moi qui lui demande ce qu'il aurait envie de faire. Toujours cette question. Qu'est-ce que tu as envie de faire là-dessus ?
On continue notre balade. Là, on va aller voir une autre fresque. Encore un visage, un portrait de femme, une femme très mystérieuse devant nous, sur ce mur. Racontez-nous, Cédric.
Alors celui-là, il est assez intéressant parce que c'est une fille qui s'appelle Lorella. Moi, j'aime bien que ce soit des filles plutôt que des mecs, d'ailleurs. Elle s'appelle Lorella et son association, c'est Miaoutou. Et en fait, elle est très souvent ici quand il y a un mur un peu de libre. Je crois que ça se voit suffisamment et c'est repassé. Quoi. D'ailleurs, je vais aller même plus loin. On a un abri, on est obligé de changer parce qu'il y a tellement une couche de peinture que ça ne veut plus rien dire et on ne peut plus vraiment peindre dessus, en fait.
Allez, aidez-nous. Vous avez le sens de la description, Cédric. Décrivez-nous ce... On fait de la radio, hein. Décrivez-nous que ça image pour nos auditeurs, qu'ils aient l'image dans la tête.
Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle a mis du fluo dans le fluo. Donc, on a un vert qui prend bien sur le rose qui est passé dessus, les yeux, le regard, les cheveux. Enfin, c'est assez magique ce qu'elle a réussi à faire. Et j'aime bien ce qu'on peut retrouver, c'est les brillances. Alors là, on les voit bien, les brillances. Alors, il suffit d'un soleil, etc. On peut revoir autre chose. Et il faut savoir que quand un graffeur pose, il évite de grignoter, j'aime bien le mot, sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ça se découpe. Ce qu'on appelle repasser, là, il y a une guerre.
Alors, justement, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, par rapport aux autorités, par rapport aux municipalités, mais trouver un mur, ça devient de plus en plus difficile pour pouvoir poser son œuvre.
Je ne dirais pas que c'est difficile, il faut aller voir les bonnes personnes au bon moment, dans l'humeur du moment, parce que bon, mais non plus maintenant, les gens, c'est un vrai oui ou c'est un vrai non. Peu importe, mais on trouve des murs. Il y a beaucoup de murs à faire encore. Puis quand je vois les dessous de périphérie, je vois tellement d'endroits où on pourrait peindre que franchement, c'est que ce ciment gris qui se dégrade, autant mettre de la peinture et des couleurs. Hein.
Autant mettre de la peinture et des couleurs, vous l'avez bien raison, Cédric, il y a encore de la place. Et puis là, je vois, là, par exemple, au-dessus de ce portrait de femme, le premier que vous nous avez décrit, toute cette façade-là, il y a une jolie petite façade là, qui n'attend que ça. Toute vierge, toute propre, toute propre, qui justement aura un petit coup de jeune si un de vos artistes passe par là. Vous ne pouvez pas demander l'autorisation pour cette façade?
Elle a été demandée, on a le résultat. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Ben ils veulent pas.
Allez, on refait un appel. On est à quel numéro là de la rue des Rosiers?
86 rue des Rosiers.
Au combien?
86, 88 rue des Rosiers, plus de Saint-Ouen.
Allez, les propriétaires du 86 rue des Rosiers, c'est un appel, c'est une bouteille à la mer qu'on lance. Allez, vous avez une façade magnifique qui donne en plus en barre-route, comme disent les publicitaires, et qui serait magnifiquement décorée si vous donniez l'autorisation.
On a d'autres emplacements qui sont pas plus intéressants, mais qui sont plus, pour nous plus engagés et qu'on a déjà trouvé aux portes de Clignancourt d'ailleurs.
On va parler du futur, de l'avenir. Francis?
Pour le futur, quelles sont les prochaines étapes? Quels sont les projets que Graffart a dans ses cartons ou dans ses bombes plutôt?
Le projet tout de suite, c'est le prix du graffiti, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Renault, les voitures Renault. Une exposition à Flins, mais c'est surtout le prix du graffiti avec des gagnants. Et une exposition à Marseille. Donc c'est un nouveau musée qui va s'ouvrir au mois de juillet cette année, donc dans pas longtemps. Et ça sera pour une exposition probablement à la fin de l'année.
Marseille? Là, ça tombe, là. Racontez-nous, décrivez-nous. Qu'est-ce qui va se passer là-bas?
C'est un mec fabuleux qui s'appelle David Benamou, qui a monté la marque Maquisard des bombes de peinture, qui avait fait dans le 18e un bel espace de graffiti, d'ailleurs, c'est incroyable d'ailleurs. Il va faire Toulouse, Saint-Denis, Marseille. Donc le premier qui l'ouvre, c'est Marseille au mois de juillet.
Musée consacré
purement au graffiti et au street art.
Et donc, deux autres villes derrière.
Gravement. Je ne sais pas comment il fait, parce que c'est beaucoup de courage. Bon, il est plus jeune que moi, mais il a beaucoup d'énergie quand même. Hein.
On parlait des jeunes, vous leur ouvrez la porte à tous ces jeunes. Cédric Naïmi, quel conseil vous pourriez leur donner à ces jeunes artistes qui veulent se lancer, la nouvelle génération? Ont-ils vraiment finalement besoin de conseils, hein? On peut aussi se poser la question.
Moi, je dis qu'à partir du moment où tu es habité pour l'artistique, quel qu'en soit l'artiste, parce que je travaille avec des chanteurs, j'ai travaillé avec des auteurs aussi, parce que j'étais aux éditions du Rocher. Je veux dire, quel qu'en soit l'artistique, fais ce que tu as envie de faire, va jusqu'au bout. Si c'est un échec, au moins tu te diras, j'ai essayé. Parce qu'on n'est pas toujours obligé d'être dans les meilleurs. Mais ce qui est important, c'est de l'avoir fait. Même si tu ne vas pas jusqu'au bout et que tu sens que tu n'as pas les capacités d'aller plus loin, au moins tu auras fait. Tu n'auras pas de regrets.
Les arts de la rue, le street art et plein d'autres choses, on l'a bien compris, c'est votre truc. C'est une grande partie de vos activités dans votre vie et tout cela, vous l'avez immortalisé dans un livre. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, sorti en 2014 aux éditions Carpentier. État des lieux, qui retrace l'évolution du graffiti et du street art en France. Racontez-nous.
Là, c'était le premier livre. En fait, c'était simple. C'est que je voyais que les graffeurs étaient un peu perdus pour savoir comment fonctionnait. D'ailleurs, je l'ai appelé État des lieux. J'aurais pu appeler la Bible du graffiti, hein, pour expliquer un peu le sujet. Donc, dedans, il y a les commissaires-priseurs, il y a les galeristes, il y a toutes les fonctions, les droits à l'image, la DAGP, parce que la DAGP sauvegarde les droits, mais elle te prend tous les droits de ton parcours artistique. Donc, ça laisse quand même réfléchir.
Alors, on explique DAGP.
ADHGP, c'est une structure qui permet effectivement, je dis bien effectivement, de sauvegarder les œuvres d'un artiste sur toute la longévité. Mais le jour où il a signé, c'est-à-dire que s'il a signé, bah là aujourd'hui on est le 1er juin 2026, s'il signe aujourd'hui, toutes les œuvres antécédentes réappartiennent au niveau des droits gérés par la DHGP. Donc ça, c'est un peu équivoque. Par ailleurs, là où c'est intéressant, c'est que si un artiste est en fin de vie, pour les ayants droit et les héritiers, ça c'est sûr que c'est mieux placé. Là, il y a pas d'autres sources. Et après, ils sont un peu radicaux. Ils en font ce qu'ils en veulent de mon point de vue, mais ils sont un peu radicaux pour ça.
Alors revenons à votre ouvrage.
Alors l'ouvrage État des lieux, bah c'est ça, c'est d'expliquer chaque partie d'artistique qu'on peut trouver, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. J'ai fait à peu près une quarantaine d'interviews de personnes différentes. J'ai fait le numéro 2 aussi, État des lieux, hein, préfacé par Richard Orlinski.
L'étincelle dans la ville va bientôt se terminer, mais avant de clôturer cette émission, eh bien, Cédric Naïma, je voudrais vous remercier, bien sûr, de nous avoir accueillis dans cet endroit formidable, hein, comme la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, et très convivial, voilà. Merci d'avoir bien voulu témoigner au micro de l'étincelle dans la ville et de nous avoir permis de découvrir plein de choses sur le street art et le graffiti. Pourquoi vous ne vous mettez pas au street art ?
Ah, parce que je suis nul, j'ai essayé. Et quand on est nul, justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, vaut mieux arrêter directement. Non, mais je suis très nul. Je veux dire, je fais des coulures. Enfin, c'est pas drôle. C'est très énervant, même. Du coup, j'ai essayé plusieurs fois. Non, j'ai arrêté. Non, mais on est bon là où on est bon. Faut pas aller chercher ailleurs. Hein.
Bon, allez, j'essayais de voir s'il y avait moyen de vous convaincre. L'étincelle dans la ville, donc, va bientôt se terminer. Francis, merci beaucoup d'avoir participé avec nous.
Ah, bah, ce fut un plaisir de découvrir tout cet espace. Et comme d'habitude, je me suis follement amusé.
Alors, le street art, ça y est, vous êtes prêts? C'est à vos bombes, Francis?
Ah bah, je vais recouvrir tous les murs de ma maison, mais à l'intérieur, pas à l'extérieur.
L'étincelle se termine, donc Cédric Naïmi, vous avez gentiment répondu à nos questions, des questions pleines d'avenir, parce que, en fait, c'est l'histoire du street art est loin d'être finie.
Et heureusement, parce que il y a plein de jeunes qui sont autour, il y a plein d'ouvertures, il faut surtout que ça continue et que ça s'amplifie. Dans de bonnes conditions, bien sûr.
En tout cas, de mon côté, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis branché. Hein. Le street art et le graffiti, bah, c'est quand même un sacré univers. J'espère qu'il en fut de même pour tous les auditeurs et toutes les auditrices. Vous souhaitez entrer en contact avec la galerie
Amarage, toujours.
On fait comment ?
Bah, y a un site, il y a plusieurs sites. Il y a graphart.fr, graphart.fr. Il y a graphartpress.fr. Et puis Instagram, c'est facile à trouver. Prix du graffiti aussi, vous le trouvez partout. Hein.
Voilà. Et si vous souhaitez entrer en contact avec nous pour l'étincelle ou réécouter une émission, pour cela, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le site d'Aligre. À la réalisation technique, Didier Robert, que je salue chaleureusement, Aligre FM est avant tout un espace d'expression, de partage, de rencontres et d'échanges animé par un collectif de gestionnaires, de journalistes, d'animateurs, de réalisateurs, techniciens. Libre, indépendant et tous bénévoles. Voilà. Merci à toute l'équipe technique qui s'occupe de la réalisation des émissions. René Clancy, Yasmine Bendali, Jade Yang, Armand Gury, Philippe Denefort, Renaud Poussin de Wilt, Enrico Mastro Giovanni et son chef d'orchestre Bruno Mandé. Merci à vous, Cédric, de nous avoir ouvert les portes aujourd'hui de cet endroit merveilleux que je recommande à tous nos auditeurs. On sort Porte de Clignancourt et puis on prend la rue des Rosiers.
On peut, mais il y a aussi la ligne 14 qui est Mairie de Saint-Ouen et il y a la ligne 13, Garibaldi, un peu encombrée, mais c'est quand même, ça existe.
Aligre FM est une radio associative non commerciale, sans publicité commerciale, une radio libre qui fête ses 45 ans. Et oui, 45 ans d'existence, c'est loin d'être anodin, très loin. Tout au long de l'année, au micro d'Aligre, nous recueillons des paroles en prenant le temps de penser, de scruter, de contempler le monde dans toutes ses composantes. Vous souhaitez soutenir Aligre? Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site et vous faites un don. Merci à notre partenaire Le Moment qui nous accueille dans son studio et qui réalise l'émission qui a pour titre Le Moment. À la post-production, donc Didier Robert, Stéphanie Malaret, Gaspard Proudhon. Il me reste maintenant simplement à prendre congé de vous. Au revoir Cédric Naïmi.
Au revoir Francis 1 et au revoir Francis 2.
Et oui, il y a deux. Effectivement, il y a le 1, il y a le 2. Merci Francis.
Merci à vous de m'avoir accueilli et vivement la prochaine.
Tenez-nous au courant Cédric de la suite des événements et bien sûr si vous voulez en savoir plus, donc rendez-vous sur le site Graphart. Pour ma part, lundi prochain à 9h, nous nous retrouvons avec grand plaisir pour une nouvelle étincelle dans la ville. Cette émission a été réalisée depuis les Plus de Saint-Ouen dans le département de la Seine-Saint-Denis à l'association Graphart. Et nous y avons été merveilleusement bien accueillis et pour le coup, en ce qui nous concerne pour aujourd'hui, l'étincelle dans la ville, c'est terminé.
De sinistre mémoire ont repris.
En cas de brouillage, cherchez une noyeur sur votre cadran.
À Ligre FM 93.1.
On peut changer la fréquence en une demi-heure.